aux personnes qui peut-être sont là pour la première fois, peut-être peu habituées à venir dans un tel lieu. Vous voyez, c'est un lieu assez sobre, je ne sais pas. Il y a sûrement peut-être dans les amis, la famille de Priscilla, de Sylvana. Alors soyez les bienvenus en tout cas. C'est vrai que ce matin, le culte pour ceux qui viennent régulièrement ou qui connaissent les cultes protestants évangéliques dans les lieux où ils habitent, parce qu'il y a sûrement des visiteurs aussi, ce culte est un peu particulier parce que ce matin, deux femmes au parcours de vie différent vont faire une démarche publique pour dire, ou si vous voulez, confesser. Vous savez, confesser, c'est un mot pour beaucoup avec les arrière-plans de nos cultures religieuses. Confesser, on pense à quelque chose qui est dit dans un confessionnal bientôt. Confesser, en fait, ça veut dire publiquement, ouvrir sa bouche. Confesser. Elles vont confesser ce qui s'est passé dans leur cœur, au plus profond d'elles-mêmes. Vous savez que la religion souvent considérée comme du domaine privé, que chacun pense ce qu'il veut, mais qu'il le garde pour lui. Eh bien, ce matin, elles vont nous dire ce qui s'est passé dans leur cœur. Suite à cela, elles vont être baptisées, c'est-à-dire plongées entièrement dans l'eau. Je reviendrai tout à l'heure, au moment du baptême, sur le sens et la signification, justement, du baptême d'eau, par immersion. Mais avant cela, je voudrais qu'ensemble, je vais vous inviter à lire dans la Bible, justement, dans un récit qui nous est rapporté par Luc, un des évangélistes, qui ont rapporté ce que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans, a dit, a fait. Et là, c'est un récit qui nous présente une rencontre entre une femme qui avait une vie sans doute assez tumultueuse et Jésus, ainsi que l'échange qui prend place entre Jésus et un responsable religieux qui avait invité Jésus dans sa maison. Alors, voilà, je vous présente un peu le décor, on y reviendra. Je vous invite à lire dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 7. Nous allons lire les versets 36 à 50. Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien, un responsable religieux qui connaissait la loi de Moïse, pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, lui répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, ni l'un ni l'autre, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui dirent en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alors, quelle présentation rapide des différents personnages. Le pharisien, c'est quoi un pharisien ? Eh bien, c'est tout simplement un homme responsable religieux au sein du peuple hébreu, du peuple juif, le peuple choisi par Dieu. Je ne vais pas vous raconter toute la Bible, mais vous pourrez la lire. Un homme surtout qui connaît la loi de Moïse. Alors la loi de Moïse, à peu près tout le monde la connaît. C'est ce qu'on appelle les 10 commandements. C'est un résumé, un aspect de la loi de Moïse. Des commandements qui portent sur le Dieu unique, qui nous invite, qui nous commande d'adorer le Dieu unique, de ne pas en adorer d'autres, de ne pas adorer d'idoles, faits de mains d'hommes ou toute autre chose qui pourrait prendre une place énorme dans nos vies. Et puis les commandements sur nos relations avec les autres. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas le bien de ton voisin, etc. Et puis aussi, d'honorer le jour du repos et puis d'honorer ses parents. Voilà un peu un résumé de la loi. Vous voyez des choses qui sont finalement bonnes. Cet homme connaît la loi de Moïse et rien n'indique dans ce texte qu'il ne cherche pas à les mettre en pratique. En tout cas, dans ses pensées, il considère que cette femme est pécheresse, ce qui n'est pas faux au regard de la loi. Alors, la femme pécheresse, justement, ça, c'est la pensée de l'homme religieux qui juge selon la loi de Moïse, mais c'est aussi ce que nous dit Luc, l'auteur de l'Évangile, qui rapporte la scène, et cela nous indique sans aucun doute qu'il s'agit d'une femme prostituée. Elle a entendu parler de Jésus, dont Luc nous rapporte que sa renommée s'était répandue dans toute la région sur la base des miracles qu'il opérait. En effet, des malades étaient guéris et des possédés étaient délivrés. Je n'expose pas plus en détail ce qui est un possédé. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui dans les rues, des gens qui sont pris par des choses qui ne sont pas très bonnes. Simplement aujourd'hui on gère ça un peu différemment, mais Jésus était celui et il est toujours celui qui peut délivrer de ces tourments, de ces choses qui tiennent les vies, de ces puissances qui tiennent des fois la vie d'hommes et de femmes dans des conditions épouvantables. Donc ces miracles avaient effectivement augmenté la renommée de Jésus. Alors cette femme, elle fait quelque chose, il faudrait resituer le contexte, mais on dirait elle est gonflée, quoi. Par rapport à ce qui se fait, elle ose quelque chose d'incroyable. Elle, une pécheresse, une femme dont tout le monde s'écarte parce qu'elle a une mauvaise vie, va oser entrer chez un religieux, un responsable religieux, qui en plus a invité Jésus. Elle ose entrer donc dans la maison d'un responsable religieux, puisque là se trouve Jésus. Mais voyez-vous, elle n'y entre pas en revendiquant son droit à faire ce qu'elle fait, ni son statut de victime. Elle entre et se tient derrière, au pied de Jésus. Elle entre, elle a le désir de rencontrer Jésus, de l'approcher. Elle entre, se tient derrière, et là, tout s'enchaîne. Elle pleure. Ses larmes coulent sur les pieds de Jésus, elle essuie les larmes de ses cheveux. Cela veut dire qu'elle était à genoux, aux pieds de Jésus. Elle baise les pieds de Jésus et répand le parfum qu'elle a amené sur ses pieds. Il vient de se passer quelque chose dans le cœur de cette femme qui va changer complètement sa vie. Dans cette rencontre, elle vient d'avoir lieu, cette rencontre, et là, au pied de Jésus, elle s'effondre. Jésus sait exactement ce qui s'est passé. Le pharisien, l'homme selon la loi, n'a pas compris. Il juge selon les apparences. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme. C'est une pécheresse. Il ne lui permettrait pas. Elle est condamnable. Jésus est celui qui regarde au cœur. Et il voit dans les cœurs, lui. il a compris la pensée du pharisien, qui n'a rien dit. Il pensait en lui-même. Mais Jésus sait qu'il pense là. Il va lui dire, il va lui raconter cette histoire. Il sait de la même manière que cette femme, ce cœur s'est littéralement converti en cet instant, d'un seul coup. La femme séductrice, arrogante, prisonnière de sa recherche d'affection peut-être, piégée dans sa recherche d'amour, toujours déçue, vient de rencontrer celui qui a compris sa recherche et sa soif. D'un coup, réalisant le naufrage de sa vie, sa douleur, mais sans doute aussi les conséquences de sa conduite, pour les autres, pour elle, elle s'effondre aux pieds de celui qui peut la sauver. L'évangile de Jean, nous présentant Jésus dans le premier chapitre de l'évangile, nous dit ainsi « La loi a été donnée par Moïse. » Et cet homme, ce religieux, quelque part, il représente la loi. Et la loi, les préceptes de la loi sont bons en eux-mêmes et profitables à l'homme. Mais l'homme ne parvient pas à les mettre en pratique, car une force, le péché, l'en empêche. Voilà le constat que tout homme peut faire. Et Jean, dans son évangile, après nous avoir dit « la loi a été donnée par Moïse », ajoute « mais maintenant, poursuit Jean, la grâce et la vérité, indissociables, sont venues, elles n'ont pas été données, sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la grâce et la vérité. Cette femme vient de vivre, en s'approchant de Jésus, ce double miracle. Ses yeux se sont ouverts sur sa condition misérable. Elle reçoit cette vérité. Ses yeux s'ouvrent sur sa vie. Et en même temps, elle a compris qu'elle était aimée pour elle-même. Qu'elle pouvait être libérée de la culpabilité qui écrasait sa vie. Jésus, qui connaît les pensées des hommes, va saisir cette circonstance pour enseigner tous les invités, et en particulier son hôte. Avec cette histoire des débiteurs, Jésus nous avertit. Nous avons tous une dette envers Dieu que nous ne pouvons régler. Tous. Tous. Car nous savons, chaque homme, chaque femme sait qu'il y a un Dieu créateur et nous savons que nous avons fait, dit ou pensé des choses qui ne sont pas bonnes. Et même si les standards actuels tentent de tout renverser, notre conscience n'est pas en paix. Nous aurons beau relativiser pour certains, nous comparer aux autres, et trouver pire que nous. C'est vraisemblablement l'attitude de ce pharisien. Je ne doute pas qu'il essaie de respecter la loi. Encore une fois, rien ne nous dit qu'il ne le fait pas, qu'il ne cherche pas à le faire. Mais dans cette circonstance, la pensée qui lui vient surtout, c'est que cette femme est pécheresse. Alors oui, on peut se comparer aux autres, trouver pire que nous, ou fuir dans toutes sortes de distractions pour oublier ce qui, finalement, travaille le cœur de l'homme. Le péché ne le laisse pas en paix, car tous, nous avons, d'une manière ou d'une autre, péché. C'est un mot qui peut paraître insupportable, et pourtant il est là. J'aime à dire, parce que c'est la parole qui le dit, c'est que la culpabilité ne provient pas de lois qu'on aurait mises sur les hommes. Vous savez, la psychologie dit que la loi mosaïque est celle qui, en fait, nous pousse à la culpabilité. C'est faux. C'est le péché qui donne la culpabilité. La loi, elle nous dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon selon Dieu. Or, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce n'est pas ce que disent les hommes, c'est ce que dit Dieu. Et dès qu'on s'écarte de ce standard, notre conscience nous reprend, et si nous nous en écartons, un sentiment de culpabilité vient. Voilà la vérité. La loi, elle, elle révèle le péché. Elle dit voilà. Mais elle ne donne pas la culpabilité. C'est le péché que nous pratiquons qui rend, qui nous donne une culpabilité. Alors, cette dette, nous ne pouvons pas la régler. Nous pouvons prendre toutes les stratégies pour nous échapper. Et même si certains se sont endurcis en raison de la douleur ou de la révolte, de choses injustes, de souffrances qui arrivent dans les vies, la souffrance, les injustices réelles subies dans les vies peuvent mener à l'endurcissement et à la révolte. Il n'empêche qu'on n'aura toujours pas la conscience tranquille, même si on accuse l'autre, même si on dit « moi, c'est pas juste », même si on est une victime. Cela ne change rien, notre conscience ne nous lâchera pas. Ou alors, il faudra aller à un endurcissement tel et une révolte telle que tout sera bloqué. Mais je voudrais dire, même là encore, Dieu est puissant pour aller toucher, briser de tels cœurs. Devant cette situation, Jésus nous livre la solution, le pardon. Oui, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Les gens étaient surpris. Pourquoi ils étaient surpris? Parce que les gens connaissaient la loi de Moïse qui avait été donnée par Dieu et qui permettait pour un certain nombre de fautes d'être purifiées, d'être libérées. Mais pas pour toutes. Le meurtre, l'adultère, le vol dans certaines circonstances conduisaient à la mort. Et là, il voit Jésus qui dit à cette femme, pécheresse de notoriété publique. Alors peut-être certains se disent, mais l'adultère, où est le problème aujourd'hui? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Sa loi est sainte. Le vol, il appelle ça le vol. Oui, mais celui qui détient sa propriété n'est pas juste. Qu'importe, ça, c'est pas ton problème. Le vol, ça s'appelle le vol. Prendre la femme d'un autre, ça s'appelle l'adultère. Etc., etc. Mais Jésus peut pardonner. C'est même pour cela, et pour cela seulement, qu'il est venu sur cette terre. Pour cela, il a accompli ce qui était nécessaire. Le péché sépare l'homme du Dieu créateur, qui est pur, sans péché. L'abîme nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Jésus est mort à notre place. Il a subi le jugement que méritaient tous nos égarements et bien souvent la méchanceté de nos cœurs. Alors, par cette mort de Jésus-Christ, un homme sans péché, mais aussi le Fils de Dieu, la justice de Dieu est satisfaite et désormais, tous ceux qui reconnaissent, comme cette femme, leur situation, leur état devant Dieu, et qui se confie, comme cette femme l'a fait à Jésus, sans revendication ni pseudo-justification, peuvent connaître la paix et une nouvelle existence réconciliée avec Dieu. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et beaucoup ici la connaissent. Mais en préparant, je ne sais pas, j'ai eu à cœur ce texte, parce qu'il m'a rappelé, au cours de cette préparation avec Jean-Luc et Myriam qui nous accompagnaient, Jean-Luc avait baptisé, préparé le chemin du Seigneur. Au cours de dans ce parcours de quelques semaines, nous-mêmes, nous avons été touchés à nouveau, nous souvenant. Vous savez, cette scène... Moi, elle me parle sur ma vie. J'ai connu ces choses-là et un jour, je me suis trouvé au pied de Jésus. sans revendication. Me montrant, il m'a montré la vérité. Je ne connaissais pas toute la Bible, mais j'ai su en un instant que j'étais ce misérable qui avait commis tant de choses que je ne pouvais régler. Et dans le même temps, comme cette voix qui disait « Mais j'ai payé pour toi et je t'aime », la vérité et la grâce qui se présentent à nous. Jésus, dans ce texte, dit assez peu de paroles à cette femme. Il lui dit trois choses, trois paroles merveilleuses que beaucoup ont encore besoin d'entendre. Premièrement, il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Jésus seul peut déclarer cela, parce que même si à cet instant il n'est pas encore mort à la croix, il sait que c'est pour ça qu'il est venu, et il sait qu'il accomplira son œuvre, et c'est une œuvre éternelle. Il n'y a pas de pardon possible de tout temps, même avant la venue de Jésus, si ce n'est en raison de la mort de Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de Dieu, à la croix du calvaire, à Golgotha. Et cette décision qui a été un combat extraordinaire, Jésus l'a pris librement dans un combat qui s'appelle une agonie. Agonie, ça veut dire combat. Au jardin de Gethsémané, dans la sueur, dans des gouttes de sang qui ont perlé, tant ce combat était difficile, car il savait, à ce moment-là, les puissances de ténèbres ne voulaient pas qu'il aille jusqu'au bout. Représentez-vous, vous, on ne peut pas se représenter ce que Jésus a vécu à ce moment-là. Les péchés, le cynisme, les cœurs tordus, les pensées les plus horribles qui peuvent venir dans le cœur de tout homme, les actes qui en découlent, de tout temps et de toute l'histoire, pressés sur lui. Il a fait ces choses, il a accompli librement par l'obéissance à son Père, ce pourquoi il était venu. C'est pour ça, lui et lui seul peut dire, tes péchés sont pardonnés. Deuxième parole de Jésus, ta foi t'a sauvé. Cette femme a cru que Jésus, cet homme qui faisait le bien partout où il passait, qui apportait la délivrance et guérison, était plus qu'un homme, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. Elle n'avait pas tout compris, pas plus que les disciples de Jésus, mais elle avait saisi l'essentiel. Elle était perdue, sans solution, mais Jésus pouvait la sortir de son tourment. Paul développera ce sujet merveilleux remis en lumière par les réformateurs. Nous croyons que nous sommes sauvés par la confiance dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, sans rien ajouter de rituel ou de formalisme ou d'effort humain. Voilà. Nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres de la loi. Ta foi t'a sauvé. Troisième parole qui en découle. Va en paix. Le pardon reçu dans un cœur libère et donne la paix et ouvre pour celui qui le reçoit la possibilité à son tour de pardonner. Alors, peut-être certains ce matin, ont besoin d'entendre cela. Vraiment, c'est la chose la plus importante dans une existence. Et dans ce monde qui ne sait plus où il en est. Une chose est certaine, c'est pour ça que ce matin je puis parler avec assurance. Parce que je sais, parce que la parole le dit, parce que l'Esprit nous l'a révélé. Que chaque homme, chaque femme sait que Dieu existe. Chaque homme, chaque femme sait qu'il a une conscience. Chaque homme, chaque femme sait que Dieu existe parce que la création nous parle par ses œuvres du Dieu créateur, unique, qui a créé toutes choses. Frères et sœurs, mes amis, hier, avant-hier, j'accompagnais mon petit-fils qui a 11 ans. Et Dieu a permis que je voie quelque chose. Un gentil garçon. Et j'allais le chercher à à l'école, il y avait grève. Et en venant, nous marchions ensemble, et d'un seul coup, il s'arrête. Et il commence à entourer, il y avait un gros chêne, il commence à entourer. Un gros chêne de ses mains. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu mesures le diamètre? Il me dit, non, je prends de l'énergie. Frères et sœurs, j'ai pas pu me taire. Oui, je dis les choses, je suis au Seigneur. Je crois que le Seigneur a ouvert une brèche pour une bénédiction en famille. Mais je sais aussi le passé, les conséquences du péché. C'est des choses occultes. Je lui ai dit, mais mon garçon, cet arbre, c'est un gland qui a poussé, qui puise dans la terre, que Dieu a créé la force pour faire cet arbre. C'est beau, il est beau ce chêne. Mais celui qui donne la vie, celui qui donne la force de vivre, la vie, l'existence et l'être, et je lui dis comme ça, celui qui te donne la vie, qui te donne la respiration, qui te donne d'être ce que tu es, c'est Dieu le Créateur, il n'y en a qu'un. Lui seul doit être adoré. Ne t'aventure pas dans d'autres chemins. Je lui ai dit vraiment de tout mon cœur. Frères et sœurs, voilà où nous en sommes. Retourne à des choses terribles. Je le dis librement, les uns les autres, nous ne sommes pas épargnés de toutes ces choses. Dieu Créateur, je parle avec assurance, parce que je sais que le Dieu Créateur, chacun ici, sait qu'il existe. Si certains l'ont mis de côté, là n'est point sa faute. À Dieu. Mais c'est le moment de revenir, parce que c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant et qui est riche en bonté. Alors, avant que nos sœurs témoignent de ce qui s'est passé dans leur vie, je vais simplement prier.